RMC.
Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion.
Ma volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison pour laquelle je veux lâcher le club.
Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à Paris. Ici, c'est Paris.
After Paris.
Thibaut Giangrande.
Et ici, c'est l'After Paris. Bienvenue dans ce podcast qui débat toutes les semaines de l'actu du Paris Saint-Germain. Et merci de continuer à faire monter ce podcast qui est dispo sur toutes les plateformes habituelles. Vous pouvez noter, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. L'équipe cette semaine, l'équipe type. Salut Jimmy Brown.
Salut Thibaut, bonjour à tous.
Et salut Arthur Perrault.
Salut messieurs,
notre
bonjour à tous.
Notre reporter suiveur du Paris Saint-Germain. Ça va les gars, en pleine forme?
Bah ça va. Hein.
On est en 8ème.
Eh oui.
10-0 sur les deux matchs.
Il
semble loin le temps où le PSG était proche de la sortie, c'était il y a au moins 3 semaines. On n'a pas encore l'adversaire au moment où on enregistre, nous sommes jeudi soir, Liverpool ou le Barça, mais on se projette quand même. Qui doit entourer l'indispensable Dembélé dans le trio d'attaque? C'est notre débat de la semaine. Arthur, 7-0 ce mercredi soir, l'air de rien. Soirée historique au Parc des Princes, jamais
le plus large succès ouais, sur la scène européenne.
Jamais arrivé un succès aussi large. T'as vu les joueurs après le match, t'étais sur place, c'était quoi l'état d'esprit? Est-ce qu'on était dans justement un truc, c'est historique, etc. Ou,
non.
Comme je l'imagine et je l'espère, était déjà sur l'étape d'après.
Non, il n'y avait pas du tout cette euphorie. Et d'ailleurs, Luis Enrique a même posé la question dans une de ses réponses en disant « Mais je crois d'ailleurs que c'est quelque chose d'historique pour le club. » Il n'était pas sûr. Donc, c'est dire à quel point voilà, on a mis ça de côté très rapidement du côté du staff parisien. La seule chose qui a été répétée dans la direction d'après-match, c'est le fait qu'il y a eu quand même 7 buteurs différents. Au-delà de ce large succès, le fait qu'à chaque fois voilà, ce soit des réalisations d'un joueur différent, c'est un truc qui a été très apprécié.
C'est-à-dire apprécié, répété pour monter, vous voyez le projet, on n'a pas besoin d'un seul buteur et tout.
Je peux te retrouver le message, mais c'est vraiment 2 minutes après le coup de sifflet final où je reçois mot pour mot, faut noter, il y a 7 buteurs différents.
Pas Dembélé dans les 7.
Oui.
Ouais, alors voilà, 22h45. Ouais. 7 buteurs différents comme un symbole, 7 extra forcément.
Et qui envoie ça?
Pas
dans
la direction du club.
Non, d'accord.
Direction du club.
Ce que je veux dire, c'est si c'est la maman d'Arthur qui envoie ça. Okay,
non, mais direction du club. Donc c'est te dire, juste ça qui est resté de côté. Après les joueurs, et je pense à Vitinha qui est venu en zone mixte, où on lui demande, voilà, est-ce qu'il a pris le temps de profiter, de savourer. Il dit, on a profité, mais il faut avancer maintenant parce qu'on sait très bien que derrière, ça va être du costaud.
Que retenir de ce match 7-0 Brest, bon, en plus, ils avaient compris, je crois, dès le match aller, Eric Roy a fait largement tourner. C'était une équipe à prime de Brest.
Oui, mais quand même.
Ouais.
Quand même, c'est pas anodin d'en mettre 7. C'est Manu Petit qui disait ça dans l'after hier. Lui qui a connu des gros matchs de Coupe d'Europe. Il a une grosse expérience européenne, Manu, du plus haut niveau. On peut lui faire confiance là-dessus. C'est jamais anodin de mettre 7 buts, même sur un match qui semble facile face à une équipe qui a tourné. En général, tu peux avoir une sorte de démobilisation qu'on a beaucoup connue au PSG ces dernières années. Voilà, quand tu savais que c'était gagné d'avance, et tu te dépouillais pas non plus. Là, ils ont joué sérieusement pendant tout le match. Les joueurs qui rentrent, ils sont décisifs. Le petit Mayulu, il met son premier but en Ligue des Champions. C'est super.
Kimpembe
revient au parc, ovation. Je veux dire, franchement, tu peux pas faire soirée plus réussie pour le PSG. Pas de blessés. Ça tourne devant, les milieux sont investis, t'as un but Hakimi qui fait de la passe D pour Nuno Mendes, je veux dire c'est la soirée sans aucune fausse note.
Oui, mais c'est vrai que c'est bien de le signaler et d'appuyer le trait là-dessus, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance, il y a ce discours, oui c'était Brest, c'était l'équipe B.
C'est rare qu'on vive des soirées comme celle-là.
Oui,
hein.
Et puis c'est pas la première petite équipe, avec tout le respect qu'on a pour Brest, que Paris affronte, et ils ont pas mis 7-0 à toutes les petites équipes aussi.
Attention les gars, regardez regardez les autres barrages. Hein.
Et même à l'inverse, pardon, parenthèse, même pour les Brestois qui prennent 7-0, j'ai vu passer ça cet après, mais pour prendre 7-0, il faut déjà être en Ligue des Champions aussi. Donc voilà, oui.
Oui, mais regarde aussi les résultats des autres barrages de Ligue des Champions.
Ouais, bien sûr.
Entre équipes,
Juve,
tu vois,
Milan,
présumées déséquilibrées a priori. La Juve, c'est dehors. Le Milan, c'est dehors. Contre le PSV et Feyenoord. Le Bayern, ils ont galéré comme jamais contre le Celtic.
Bien sûr.
Normalement, c'est d'ailleurs la dernière fois que le PSG en avait mis 7 en Ligue des Champions, c'était le Celtic au Parc en 2017. C'était 7-1. Ouais. Donc, tu te dis, le Bayern, ils vont cartonner le Celtic. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé.
Ouais.
Paris a fait le taf. Et très bien fait, même.
Après,
tendance
toujours à être un peu trop exigeant et peut-être qu'on en reparlera. Je trouve qu'il y a quand même des petits détails à améliorer.
Défensivement notamment.
Défensivement notamment, je repense à Fabien Ruiz aussi. On va dire qu'on s'acharne sur lui, mais il a quand même plusieurs belles occasions.
Tout se passait bien, Arthur, on passait un bon moment. Et...
Non, mais c'est vraiment pour aller chercher dans le détail. On va arriver dans une période où il va falloir que ces détails-là soient rectifiés. Et si on est dans le détail, on est obligé de parler un peu de la performance de Fabien Ruiz.
Mais on parlera probablement 8e de Fabien Ruiz et de Donnarumma. Quoi.
Si tu veux prendre le verre à moitié plein, tu peux te dire aussi que tu n'avais pas Warren Zaïre-Emery sur la double confrontation, que ça s'est pas du tout senti, qu'aujourd'hui. Voilà, t'es en mesure de pallier aux absences. Alors évidemment, il faut prier pour qu'il arrive rien à Dembélé et à Hakimi. Ça, c'est difficilement. Eux sont difficilement remplaçables. Je rajouterai aussi Marquinhos, mais pour le reste, l'équipe, elle peut. Voilà, ça peut tourner. Si t'as un blessé, t'as un absent, t'as suffisamment de solutions et on va y venir même en attaque pour pallier aux éventuelles suspensions ou blessures.
Et justement, la transition est là. La passe D de Jimmy.
J'aurais été un peu numéro 10.
Ouais, un petit peu.
Un peu. Pas trop non plus.
Liverpool. Ou Barcelone, bon, on saura ce vendredi, mais projetons-nous, et même en fonction si vous écoutez ce podcast après, mais un mot sur chaque adversaire, avant de s'intéresser justement à notre thème du jour, ce trio d'attaque. Contre qui le PSG a le plus de chances de passer à votre
Je vais faire mon Daniel, j'étais très mal compris sur les réseaux, là, l'extrait est sorti, je me suis fait allumer la semaine dernière en disant que on souligne pas une...
Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé.
On souligne pas de progression, etc. Mais c'est pas du tout ce qu'on a dit, on a passé un podcast, c'est-à-dire que le PSG a vachement progressé, la question était est-ce qu'ils sont favoris de la Ligue des Champions ? Moi j'avais dit tu vas jouer Liverpool ou Barcelone, c'est les deux pires équipes à jouer, et je le maintiens cette semaine. Franchement, moi j'ai presque envie de dire je préférerais Liverpool. Pourquoi ? Ne serait-ce que pour la nouveauté, parce que ça fait depuis 97 que tu les as pas affrontés sur un match aller-retour, ça ravivra de bons souvenirs, c'était l'époque Coupe des Coupes en 97. Le Barça, t'as l'impression que tu les joues quasiment tous les ans en phase finale, donc voilà, ne serait-ce que pour changer, je sais pas, moi le Barça, j'en avais un peu parlé déjà la semaine dernière,
mais
je les trouve un peu plus costauds que la saison dernière, et je trouve que Liverpool s'essouffle un petit peu, c'était déjà le cas, j'avais déjà dit la semaine dernière, entre-temps ils ont accroché, ils ont fait 2-1 contre Wolverhampton un peu à l'arrache, hier en même temps que le PSG contre Brest,
Villa.
Ils se sont fait accrocher à Villa Park.
Ouais.
Voilà, quand tu démarres très fort les saisons, il y a toujours un moment où tu as un petit creux et j'espère que, en plus là, tu n'auras pas comme les années précédentes, 3 semaines entre l'aller et le retour. C'est-à-dire que ça va aller très vite.
C'est une semaine.
Le 4 ou 5 mars, tu joues l'aller, le 11 ou 12 mars, le retour. Donc
la semaine suivante.
Les matchs sont très rapprochés. Dans la séquence actuelle, voilà, j'aurais une petite préférence pour Liverpool, mais dans les deux cas, ça va être, je pense, très très dur, quel que soit l'adversaire.
Arthur n'est pas d'accord.
Pas forcément, on a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais pour Barcelone, et on a eu de nouveau le débat à la rédaction, je continue de penser que cette équipe n'a pas beaucoup progressé comparé à l'opposition de l'année dernière avec le Paris Saint-Germain. La seule chose, et pour mettre de l'eau dans mon vin, je pense que le discours de Flick passe mieux et que ses idées sont mieux retranscrites sur le terrain. C'est ce qui fait que peut-être cette équipe cette saison est un peu plus imprévisible. L'autre chose, et on en parlait aussi à la rédaction, en fait, Liverpool, j'ai envie de savoir si tout ce qu'on voit depuis le début de saison, ça marche contre un très gros d'Europe. Et je pense que Paris est un très gros d'Europe, qui est une équipe très compliquée à jouer, et que pour Paris, ce sera un vrai premier gros test, mais que aussi, et on l'oublie, pour Liverpool, ce sera un premier gros test. Et c'est aussi ça qui m'excite, entre guillemets, dans ce rendez-vous.
Après,
donc je penche plutôt pour
même
pour
si Liverpool ont quand même a la possibilité de se tester tous les week-ends en Première Ligue et à des matchs.
Oui, oui, championnat supérieur, tout ce que tu veux. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Mais là, culture de jeu, je pense, différente, avec un Luis Enrique,
ouais,
avec ses surprises, comme on le sait.
Bon, après,
il y aura un vrai combat tactique aussi. Quoi.
Pour le storytelling, je reprends le Barça. Moi, je veux le Barça. Maintenant, il y a trop d'histoires, trop d'antagonisme avec cette équipe. On veut reprendre le Barça.
T'aimes pas la nouveauté, toi.
Non, mais on veut reprendre le Barça et on veut les tarter à nouveau. Voilà. Tous les ans, j'ai envie de tarter le Barça.
C'est notre façon de voir les choses.
Bon, on verra ça, en tout cas, déjà le tirage au sort. Et la question qui nous anime maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de doutes sur cette équipe, hein, c'est vrai que l'équipe type se dégage enfin, d'ailleurs, sous Luis Enrique, mais quand même, devant, l'arrivée de Gvara a rebattu les cartes, l'explosion de Dembélé, les trois de devant. Qu'est-ce qu'on fait contre Liverpool, qu'est-ce qu'on fait contre le Barça? Bon, on est d'accord que Dembélé est devenu indispensable, ça aurait pu être un débat il y a quelques mois.
Ça n'allait plus aujourd'hui. Je pense que si c'est le premier que tu mets sur la feuille de match, s'il est disponible.
Qui vous l'entourez dans ce trio d'attaque? Est-ce que c'est Barcola et Gvara, comme ça a été le cas contre Brest? Et je crois qu'Arthur, c'était une petite surprise, on était plutôt peut-être
on
sur Doué.
Parler, ouais.
Est-ce que c'est Doué justement? Est-ce que c'est un Ramos
Alors,
sur cette historique-là, sur le dernier match, et je pense que on l'a déjà vu, hein, Luis Enrique fera forcément quelque chose de différent comparé au dernier match de Ligue des Champions, donc celui qu'on a vécu hier. Je crois que ça arrivait une seule fois où il a gardé les mêmes plans. Avant le match, deux jours avant, avec Fabrice Hawkins, on nous a fait comprendre que la tendance était à ce que Guevara débute sur le banc. Matin du match, donc hier matin, staff, entourage joueur, on nous a redit la même chose. Et finalement, on se retrouve face au poteau rose avec Guevara titulaire sur ce côté avec Barcola à l'opposé. Je me dis pourquoi il a fait ça. L'explication que l'on m'a donnée, sans totale confirmation, c'est que Paris avait de l'avance. Guevara, et Luis Enrique l'a dit subtilement aussi dans sa conférence de presse de veille de match, a besoin encore de trouver ses repères, oui, a besoin de ce temps d'adaptation, a besoin de jeu, a besoin de voilà, d'être sur le terrain. Je pense qu'il n'a pas dit de bêtises et que c'est pour ça qu'il l'a mis titulaire hier soir. Et après, ça a fait l'objet d'un gros débat en avant-match, et je n'étais pas d'accord avec Jeannot et Kevin Diaz. Je le trouve mieux.
J'étais pas d'accord avec toi non plus.
Je sais, mais je le trouve mieux. Je l'ai trouvé encore mieux hier soir, et je trouve qu'on est très, très, très dur avec lui. Je trouve qu'on a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés contre 70 millions d'euros et qui ont eu des débuts au Paris Saint-Germain beaucoup plus compliqués que lui.
Non, moi je trouve qu'on n'est pas dur. C'est juste que on est, non, mais je trouve qu'on est lucide. C'est-à-dire que pour l'instant, il vient d'arriver, c'est pas terrible. Il a mis son but, etc., son deuxième d'ailleurs hier soir. Mais on peut dire que c'est pas terrible, tout en disant ça va, ça fait 5 matchs. Qu'on lui laisse largement le temps et qu'on ne doute pas de son intégration.
Le luxe qu'a Luis Enrique, c'est qu'il gagne, en fait. Donc, ce n'est pas grave. À une époque, ça aurait fait la une
oui,
des journaux.
On le met de côté.
Hier, on en a parlé un peu en avant-match. Il fallait trouver un thème sur PSG Brest, voilà. Où c'était déjà joué d'avance. Donc, tu focuses sur Guevara, qui est un peu le titulaire surprise. Mais franchement, personne n'en parle de l'intégration plus ou moins compliquée. Moi, je suis plutôt de l'avis d'Arthur. Je trouve les gens sévères avec Guevara. Fallait s'attendre à quoi? Qu'il arrive et qu'il mette 8 buts en 5 matchs dès son arrivée? Non, voilà. Commence à être décisif. Tu le sens de mieux en mieux. Tu sens qu'il y a eu une période aussi à Naples, il faut le rappeler, où il a moins joué, où il était un peu en conflit avec le club.
Il y a eu la réathlétisation à son arrivée au PSG.
Il faut que physiquement ça revienne. Il faut que tu prennes, on sait que le jeu de Luis Enrique est hyper exigeant. Donc, il faut que tu prennes tes repères avec tes coéquipiers, tout ça. Je pense que c'est de mieux en mieux.
Alors, ok, mais sachant ça, ce que vous dites là, dans 2 semaines, le Barça ou Liverpool?
Moi, je pense, pour aller plus loin dans l'interprétation, si tu remarques, hier, il sort Dembélé et Barcola, Guevara, il fait tout le match.
Oui.
Ça donne une indication, je pense, déjà sur le match de Lyon.
Tu as raison.
Qui est, je pense, un match important. On ne va pas faire ici de politique, mais tu as bien compris que vu l'antagonisme entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi, je pense que ce match-là, il est coché un peu dans le calendrier parisien. Vaudrait mieux pas passer à côté et pas perdre son invincibilité à Lyon ce dimanche. Tu vas jouer avec la meilleure équipe possible à Lyon. Le fait que Guevara ait fait les 90 minutes me laisse à penser qu'il ne démarrera peut-être pas contre Lyon et que tu vas retrouver une triplette Doué, Barcola, Dembélé. De là à dire que ce sera la triplette. Est-ce que d'ailleurs, peut-être qu'en fonction de l'adversaire, ce ne sera pas le même choix, tu vois. Est-ce qu'il faut exclure à 100% qu'un Gonçalo Ramos, en fonction de l'adversaire, si tu joues plutôt Barcelone que
justement,
que
les gars, oubliez Luis Enrique. Et vous, mouillez-vous. C'est quoi le meilleur trio parisien?
À l'instant T?
Oui.
À l'instant T, je pense que c'est celui dont vient de parler Jimmy. C'est Doué à droite, Barcola à gauche et Dembélé en faux 10.
Et c'est plus l'association, en fait, si tu veux. Parce que si tu veux, t'as bien compris que Barcola et Guevara, les deux, ils sont plus à l'aise à gauche. Et que si t'en mets un à droite, là, déjà, et d'ailleurs, tu le vois.
C'était Guevara contre Brest.
Ouais, mais en fait, c'était souvent aussi Dembélé. Qui prenait là, tu vois,
Guevara est là et on l'a vu à Brest, et d'ailleurs ça m'avait marqué à Brest, Guevara est titulaire, il fait 15 minutes à droite, 15 minutes dans l'axe, 15 minutes à gauche. Donc je pense que c'est là aussi où il peut se démarquer, peut-être que Doué n'a pas autant de facilité pour l'instant à faire ça, et c'est là où il peut se démarquer, mais je trouve qu'à l'instant et on le voit hier, Doué a quelque chose de différent, un peu plus d'installation, un peu plus de fluidité.
Avec aussi toujours quand même pas mal de déchets.
Je parle sous le contrôle d'Arthur, mais ce qu'adore Luis Enrique, c'est ce côté un peu liquide, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir permuter constamment pour trouver l'adversaire, de pouvoir changer les positions, etc. Donc Guevara, il t'offre cette option. Moi, je vous trouve sévère, je pense que Doué, il est capable de prendre les trois postes. D'ailleurs, il a joué parfois côté gauche, il a joué parfois dans l'axe. On disait tout à l'heure ce qui a changé au PSG, il y a eu l'arrivée de Kvara, il y a eu l'explosion de Dembélé, mais il y a aussi l'émergence de Désiré Doué. Pardon, mais c'est pas du tout le même joueur que depuis un mois et demi, depuis la reprise en 2025, Désiré Doué. Moi, je trouve qu'il a passé un vrai cap. Et si vous remarquez aussi dans le nombre de minutes, à chaque fois qu'il le met titulaire, il le gère aussi beaucoup, Luis Enrique. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure de jeu, il le sort. Tu sens qu'il a pas envie de le surexposer, qu'il a pas envie de risquer la blessure. Je pense qu'il compte énormément sur Désiré Doué. Et ça m'étonnerait pas que la triplette titulaire soit Doué, Dembélé, Barcola, avec en sortie de banc, et tu l'as vu hier, tu peux envoyer Kvara au bout d'une heure, tu peux envoyer Gonçalo Ramos en fonction du profil de match, t'as Kanginli aussi qui peut rentrer, enfin, t'as une multitude d'options. Il est arrivé à ce qu'il voulait depuis qu'il a été intronisé, Luis Enrique, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'interchanger plein de joueurs et de s'offrir une multitude d'options.
Petit point stat brut comme ça, là, on parle de ceux de devant, sur la saison. Dembélé, 30 matchs, 23 buts, 6 passes. Barcola, 36 matchs, 16 buts, 9 passes. Doué, 32 matchs, 5 buts, 9 passes. Ramos, 21 matchs, 9 buts, 4 passes. Et Kvara qui a quand même déjà 2 buts et 2 passes D en cette match.
Pour être tout à fait honnête, il faudrait avoir le nombre
le
de minutes.
Le nombre de minutes.
Parce que Doué, notamment Doué, il a les autres.
Exactement. Voilà. Exactement.
C'est ça le truc aussi, tu vois. Doué, en fait, sa saison, elle se coupe vraiment en deux. Doué, il y a le Doué post trêve hivernale.
Bien sûr.
Et le Doué qui
tu vois qu'il est précieux.
Et
tu vois qu'il est précieux dans le jeu. Le nombre de passes décisives, c'est là où il fait la différence.
Il y a un nom que j'ai cité, vous me l'aviez même pas cité sur les trois de devant, c'est Ramos. Bon, il y a plus de débat sur le fait qu'il soit titulaire ou pas.
Il est venu hier en zone mixte. Hein.
Mais il y a
fait une bonne entrée hier.
Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Sur les stats de Ramos que je vous ai donné là, 9 buts. 7 ont été marqués en tant que remplaçant. En fait, malheureusement pour lui, on a l'impression que c'est le rôle parfait, le type.
Malheureusement, tout le monde est content s'il arrive à marquer des buts.
Pas lui,
malheureusement, justement, hier il est passé et face aux journalistes et on a essayé un peu d'interpréter son comportement. On lui a demandé si ça lui allait cette situation. Il semble pas embêté. Hein. Il semble vraiment pas gêné. Hein. Lui, il est là, il le dit. Hein. Il le dit. Moi, le coach me dit de rentrer, je rentre, je marque.
Oui,
c'est un discours un peu banal. C'est un discours un peu banal. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux te dire, c'est dans la façon dont il l'exprime, face aux journalistes. Il est pas au fond du trou, il vit ça très très bien et il s'en contente, hein, entre guillemets. Voilà, c'est le plus important, j'ai envie de te dire.
Juste sur ce trio, tu mets qui toi avec Dembélé, Barcola et Doué aussi, et Kvara sur le banc.
Je mets Doué aussi. Bon. À l'instant T, je mets Doué.
Tiens les gars, un mot quand même sur le match de ce week-end, l'affiche dimanche soir au Groupama Stadium.
Ouais.
Est-ce que, et je voudrais commencer par toi Jimmy, tu es inquiet pour l'invincibilité cette saison du PSG?
J'en avais parlé en toute fin de podcast la semaine dernière. Moi,
si on passe ce match-là, c'est bon?
Non, mais j'ai un mauvais... Lyon, fin février, je crois que c'est 2019, si je ne dis pas de bêtises, le PSG est toujours invaincu et on perd l'invincibilité au Parc Ouel. C'est toujours des matchs compliqués, c'est toujours des matchs particuliers. Après, sur la dynamique du moment, franchement, t'as du mal à flipper. Il a parfaitement géré l'effectif. Ils ont pas trop, tu vois, il a sorti tout le monde, tous les titulaires, ce que je disais tout à l'heure, aux alentours de l'heure de jeu. T'as pas de pépin physique. A priori, ça devrait bien se passer, mais après,
c'est vrai que Lyon est tellement imprévisible.
Et ça, c'est 2019, tu perds 2-1. Hein. Di Maria ouvre le score, ensuite c'est Moussa Dembélé et Fekir sur penalty. Et c'était la 23e journée. On joue quelle journée là?
24 ou 25, là. Un peu plus loin.
Non, c'est la 23e ce week-end.
Voilà, exactement.
Tu vois?
Exactement.
Ce serait, si tu repères ton invincibilité 6 ans plus tard, dans le même stade, à la même journée.
Le chat noir.
Mais comme je disais, il y a un côté, je pense qu'il est important ce match pour la direction parisienne, pour ce qui s'est passé entre John Textor, entre les deux directions. Je pense que personne n'a envie d'aller perdre le match.
Va falloir le guetter dans les prochains jours parce que on a commencé déjà à sonder un petit peu sur s'il y avait eu un message de passé aux joueurs déjà, tout ça concernant l'opposition Textor Al Khelaïfi. Il n'y a pas eu de discours en ce sens hier soir, mais la musique est en train de monter. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose de dit quand même. Alors on va falloir surveiller demain, après-demain, mais la musique va monter et cet élément-là fait que je ne suis pas vraiment inquiet. Parce que je dis pas que ce sera un match de Ligue des Champions, mais je pense qu'ils vont comme des morts de faim sur le terrain, avec la direction qui va les pousser derrière en leur faisant comprendre gentiment que celui-là, faut pas le louper, que derrière, il y aura la potentielle revanche ou le moyen d'enfoncer encore plus, entre guillemets, John Textor contre Botafogo pendant le mondial des clubs. Voilà, le premier acte, c'est dimanche.
Dimanche, 20h45.
Après, je sais pas dans quelle mesure c'est de la com ou pas, mais Luis Enrique, en tout cas, lui, a dit que cette question d'invincibilité ça lui hantait pas plus que ça, c'est pas du tout un objectif. Lui, ce qu'il veut, c'est d'aller le plus loin.
Regarde encore hier soir l'histoire du record du plus large succès, il sait même pas, il n'en est pas sûr.
Non, mais on mentionne quand même, tu vois.
Oui, ça c'est des records accrochés quand t'as atteint les objectifs. Comme à l'époque, Laurent Blanc, t'avais tout gagné et t'allais chercher les derniers trucs.
Mais.
Ou qui fait plaisir aux supporters, quoi.
T'as Lyon là, ça va se décider de toute façon dans les gros adversaires. Après, Paris a souvent aussi, s'est souvent fait accrocher dans une saison contre des adversaires a priori moins prestigieux.
Toulouse la semaine dernière, c'était pas flamboyant.
Oui, mais c'est des matchs que tu gagnais pas forcément avant. Et là, tu les gagnes.
C'est maîtrisé, ouais.
T'arrives à faire tourner l'effectif, t'arrives à rester solide, à pas encaisser de but. Franchement, il y a quand même beaucoup de points positifs. Ils arrivent dans leur meilleure forme au meilleur moment. Voilà, ramenez-nous Liverpool, ramenez-nous Barcelone. On a envie que ce soit demain, quoi. On a envie que ça arrive vite.
C'est donc un jour et ça va venir très vite. Oh, l'After Paris sera là pour en parler, bien évidemment. Merci les gars, Jimmy Brown, Arthur Perrault.
Salut messieurs.
Merci
salut
à
les
vous
gars. Salut
d'être là, fidèle. Toujours à l'After Paris qui revient très vite. Ciao tout le monde.
RMC After Paris.